Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Émission spéciale. Aujourd'hui, appel sur l'actualité est à Cotonou. Juan Gomez.
Bienvenue au Bénin, nous sommes à Cotonou jusqu'à la fin de la semaine. D'ailleurs, notez sur votre agenda que jeudi, nous enregistrerons une émission spéciale en public à l'occasion du 35e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives du Bénin, la première conférence nationale en Afrique francophone qui a permis au pays de jeter les bases de la démocratie et de l'état de droit. 35 ans après, les Béninois sont-ils fiers du chemin parcouru ? On vous attend évidemment très nombreux ce jeudi à 10h à l'hôtel Azalaï. Vous avez toutes les informations disponibles sur nos réseaux sociaux. Pour notre première émission ce matin au Bénin, je vous propose de débattre sur la lutte contre le terrorisme. Quelle stratégie face à la menace djihadiste ? On en parle car depuis le début de l'année, le pays a été attaqué à quatre reprises faisant au moins 45 morts parmi les soldats. Des attaques revendiquées par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux combattants. Pourtant, sur le terrain, d'importants moyens militaires sont déployés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces dernières attaques démontrent une fois de plus la capacité de nuisance de ces groupes qui sont implantés au nord du Bénin, Burkina Faso, Niger, Mali. Des groupes qui, une fois de plus, démontrent leur volonté d'étendre leur zone d'influence vers les pays du golfe de Guinée. Pourquoi cette violence déborde-t-elle vers les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest ? Comment relever le défi sécuritaire ? Vos témoignages, vos questions, vos réactions évidemment nous intéressent. Et pour dialoguer avec vous, trois invités. Merci d'être avec nous, mon colonel Herman Avocan. Soyez le bienvenu.
Merci, monsieur Gomez.
Vous êtes le chef d'état-major de l'armée de l'air du Bénin. C'est quand même la première fois qu'un chef d'état-major de l'armée accepte de participer à une émission de radio sur la longueur, que vous acceptiez de dialoguer, de débattre aussi avec nos invités et les auditeurs de RFI. À nos côtés également ce matin, Janine Ella Abattan, bonjour.
Bonjour Juan Gomez.
Chercheuse principale à l'ISS, l'Institut d'études de sécurité pour le bureau qui couvre l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Bonjour Nadia Nata.
Bonjour Juan Gomez.
Consultante indépendante sur les questions politiques et sécuritaires. Avant de passer au standard et de donner la parole aux auditeurs, ils nous ont contactés de toute la sous-région. Mon colonel, quatre attaques en moins de 2 mois. Diriez-vous que le Bénin fait face à une recrudescence du terrorisme ?
Oui, monsieur Gomez, comme vous le dites, ces attaques se sont répétées ces 2 derniers mois. Je crois que tout le monde peut reconnaître que l'intensité de la menace a augmenté.
L'intensité a augmenté, Janine est là à battant, et aussi la force de frappe a augmenté.
Oui, c'est ce qu'on a vu notamment avec l'attaque du 8 janvier qui a touché une position de l'opération Mirador au point triple. L'ampleur de cette attaque a choqué.
30 militaires tués le 8 janvier.
Voilà. Et l'objectif de ces attaques pour ces groupes, c'est non seulement de créer la psychose, mais aussi de se ravitailler. On parle de ravitaillement en armes et en équipements divers.
Créer la psychose, Nadia Nathan, ils y parviennent, les djihadistes ?
C'est certain, dans la mesure de, on considère que d'abord une guerre, elle est psychologique, c'est une guerre d'information, et donc gagner la guerre, c'est également de gagner l'adversaire sans combattre. Et bien sûr, il y a un ascendant actuellement psychologique, non seulement au niveau des forces armées et de défense, mais aussi au niveau de la population, parce que ça donne un éclat. On a été très touchés par l'attaque du 8 janvier, et c'est quand même une première.
Attaque du 8 janvier qui a effectivement suscité une très vive émotion au Bénin. L'émission est exceptionnellement enregistrée, mais depuis la semaine dernière, vous avez pu vous inscrire nombreux sur nos réseaux sociaux pour dialoguer avec nos invités. Certains d'entre vous sont déjà en ligne. Alors, on a reçu des réactions du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Guinée, du Niger, du Togo et même du Ghana. Mais puisque nous sommes au Bénin, commençons évidemment avec des auditeurs de Cotonou. Bonjour Polo.
Bonjour Juan Gomez.
Vous disiez au standard avoir été très éprouvé par les attaques de ces dernières semaines.
Oui, et quel Béninois ne le serait pas, à part ces incursions qui malheureusement se répètent et de plus en plus à la lisière de la frontière du Bénin avec le Burkina Faso. éprouvée parce que plusieurs de nos soldats sont tombés, mais le moral reste fort face à cette menace. Et n'empêche que c'est une grande colère qui m'anime, comme beaucoup d'autres Béninois. D'autant plus qu'on ne sait pas ce que veulent ces groupes armés inconnus, définis comme tels, même s'ils ont une dénomination. On ne sait pas pourquoi ils s'en prennent au Bénin, quelle est leur motivation, on ne le sait pas. À tout le moins, on sait pour l'instant que ces incursions servaient à leur ravitaillement, parce que quand ils passent entre les mailles des forces de défense et du système de sécurité mis en place, c'est pour dépouiller les éleveurs de leur bétail et les paysans de leur récolte. Et face évidemment à la riposte, est mise en place par les forces de défense, forcément qu'ils s'en prennent également aux soldats béninois. Et c'est ça, vraiment, on ne sait pas vraiment quelle est leur motivation.
Il y a beaucoup de questions, effectivement, en suspens. Mon colonel, 30 militaires tués le 8 janvier. Pourtant, la position qui était ciblée ce jour-là était présentée comme l'une des mieux équipées du pays. Que s'est-il passé ?
Ce qui s'est passé, c'est que nous avons connu une incursion de l'ennemi qui est venu des pays frontaliers pour attaquer notre position. Et cela leur a permis de faire un coup d'éclat. Et par la suite, avec les médias, ils ont utilisé cela pour créer la psychose au sein des populations.
Quand vous dites avec les médias, c'est à travers les réseaux sociaux, puisque les groupes djihadistes ont diffusé des vidéos.
Oui, je vais parler des médias en général. Ça me permet de lancer un appel à nos compatriotes pour leur dire que le terrorisme se joue des frontières, mais utilise les réseaux sociaux pour faire de la publicité. Et c'est faire leur jeu que de diffuser certaines informations qu'eux-mêmes envoient.
Ouais. Nadia Nata, sur cette attaque du 8 janvier qui a marqué les esprits ici au Bénin, et surtout j'ai envie de dire la population du Sud qui a pris conscience, le Sud c'est Cotonou, Porto Novo où nous nous trouvons en ce moment, qui a pris conscience après cette frappe finalement de la puissance, de la menace djihadiste dans le pays.
Nous sommes en guerre, une guerre asymétrique certes, mais c'est une guerre. Et c'est vrai que jusqu'à présent, comme c'est essentiellement les zones frontalières et c'est le nord du pays, c'est-à-dire notamment la Takora, la Liborie, qui sont touchées, beaucoup n'ont pas conscience de la gravité ou de l'ampleur de la situation. Donc quand il y a une opération comme telle avec un niveau de coup d'éclat et des morts, on salue la mémoire de nos soldats qui sont tombés, donc à partir de ce moment, il y a une prise de conscience collective de la gravité de la situation. Et effectivement, c'est comme s'il y avait deux réalités parallèles. Au nord, une situation de guerre, plus ou moins, dans certaines localités, surtout ces zones les plus touchées. Mais au sud, on ne ressent pas du tout cette menace terroriste. Et c'était important de faire ce rapprochement.
Oui, ce rapprochement. En tout cas, c'est vrai que cette attaque du 8 janvier a servi d'électrochoc au sein de l'opinion publique béninoise. Janine est là, battant, avant de repasser au standard et de donner la parole à un autre auditeur du Bénin. Polo, le premier auditeur, disait « Ces incursions permettent aux djihadistes de se ravitailler. » Ce sont des informations que vous confirmez ?
Oui, c'est des informations que je confirme et on l'a vu plusieurs fois, pas seulement au Bénin, mais aussi dans d'autres pays frontaliers où on voit des attaques qui ciblent des positions des militaires, de la police, comme étant une stratégie utilisée par ces groupes pour pouvoir se ravitailler en armes, en munitions et en équipements divers. C'était le cas, par exemple, au Togo en juillet 2024. Donc, faut pas oublier la stratégie derrière, créer la psychose, se ravitailler. Mais ça montre aussi la capacité de nuisance des groupes, comme vous l'avez dit, et leur capacité à pouvoir tirer profit de différents types de vulnérabilités, y compris les tensions politiques en cours entre des pays qui doivent se parler, le Niger, le Bénin.
On va en parler, bien évidemment, tout au long de cette émission. Friedrich souhaite prendre la parole. Il est à Pobé. À Pobé, c'est pas très loin de la frontière avec le Nigeria. Bonjour Friedrich.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons avec nos invités.
Oui, merci pour ce sujet vraiment d'actualité dans notre pays. Comme le colonel vient de le dire, l'appel lancé aux patriotes vient à point nommé, puisque nous constatons que c'est effectivement au niveau des réseaux sociaux qu'ils arrivent à jouer sur la psychologie des Béninois. Et là où le bât blesse, c'est que l'économie béninoise est vraiment en danger, puisque on n'est pas sans savoir que dans ces zones, les horaires de travail ont considérablement été réduits. Aujourd'hui, déjà, dans l'après-midi, c'est plus possible dans le nord du pays, disons à Malanville, à Karimama, de pouvoir aller sur le terrain ou pour aller travailler.
Oui, c'est-à-dire que la menace djihadiste oblige à modifier la façon de vivre. Janine Ella Abattan, vous avez évidemment fait des recherches, vous êtes allée sur le terrain. Je rappelle que vous êtes chercheuse principale à l'Institut d'études de sécurité pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Concrètement, quelles répercussions a cette menace dans la vie quotidienne des Béninois du Nord ?
On voit que depuis 2021, la fin 2021, qu'il y a eu plusieurs incidents, pas que des attaques, mais aussi d'autres incidents qui touchent la population civile. Et pour moi, c'est une tendance inquiétante parce que ça a des implications humanitaires en termes de déplacement. On a vu, par exemple, des attaques contre des civils, des vols de bétail, l'utilisation d'engins explosifs improvisés qui impactent aussi les civils. Mais aussi, en parallèle, le gouvernement a pris plusieurs mesures, y compris des mesures de restriction de mobilité pour protéger les populations. Mais ces mesures ont aussi des impacts sur les populations en thème de leur capacité de pouvoir mener certaines activités génératrices de revenus, par exemple.
Mon colonel Herman Avocan, je rappelle que vous êtes le chef d'état-major de l'armée de l'air du Bénin. Quel est le dispositif militaire déployé dans le nord du Bénin ?
Oui, le Bénin a mis en place depuis quelques années l'opération Mirador au nord du Bénin, qui est en réalité un dispositif de barrage au plus proche des frontières. Et cela nous permet de prendre les mesures contre ces groupes armés terroristes.
Ça signifie combien d'hommes sur le terrain, mon colonel ?
C'est quelques milliers de soldats.
Est-ce qu'on peut être plus précis ?
Je ne voudrais pas donner exactement l'effectif.
On parle de 3000 soldats déployés dans un premier temps, plus 5000 soldats supplémentaires pour renforcer la sécurité. Janine Ella Abattan, il y a des informations que le colonel, et je peux le comprendre évidemment, Secret Défense ne peut pas dévoiler.
Je pense qu'il faut retenir, c'est quand même cette capacité de réponse, cette capacité à pouvoir tenir le terrain. Je pense au début, vous avez parlé d'implantation de groupes. Ce qu'on a vu pour l'instant, il n'y a pas de groupe implanté sur le territoire, mais ces groupes montrent quand même leur capacité à se mouvoir, à mener des attaques, à faire des incursions, y compris contre les populations civiles, qu'il est important de souligner.
Des auditeurs de la sous-région souhaitent prendre la parole également, nous faire partager leur vécu, leur quotidien. Rabiou, bonjour.
Bonjour Wad et bonjour à tout le plateau.
Et merci de nous écouter dans le nord du Togo. Vous êtes à Mundour. C'est la région des savanes ?
Oui, c'est la région des savanes. C'est de Mandouri, c'est une ville frontalière avec le Bénin.
Oui.
Nous sommes à 500 mètres du Bénin, de la commune de Matéri, qui est située dans le Bénin.
D'accord.
C'est d'abord la préfecture la plus touchée par le terrorisme ici au Togo.
Oui, puisque votre région est frontalière avec le Burkina Faso. Comment vivez-vous justement cette menace au quotidien, Rabiou ?
D'abord, après les toutes premières attaques, et vraiment, certaines mesures ont été imposées, d'autres ont été efficaces, d'autres tout de même n'ont pas été efficaces.
C'est-à-dire, soyez un peu précis, quelles mesures vous a semblé efficaces, Rabiou ?
Oui, notamment au niveau de la lutte armée avec nos forces de défense et de sécurité, et d'abord au niveau des équipements, certains équipements qui n'étaient pas vraiment du tout ça, mais avec le temps, Ils ont été équipés notamment avec des drones, avec de nouveaux matériels plus sophistiqués. Et donc avec tout ça, ça a permis quand même de repousser les groupes armés au-delà de nos frontières. Maintenant, il y a aussi certaines de ces mesures qui n'ont pas été efficaces, notamment au niveau des renseignements, au niveau de l'implication de toutes les couches sociales, sans distinction, sans discrimination aucune. Donc,
Et ça, effectivement, Rabiou, c'est un point qui, moi, me semble pertinent. Mon colonel, il faut du renseignement humain pour lutter contre les djihadistes. Et ce renseignement humain, ça passe aussi par la population. Vous avez vos moyens, peut-être des drones ou autres, mais il faut une coopération directe avec les habitants.
Absolument. L'acquisition du renseignement est essentielle, notamment dans une confrontation asymétrique. Le renseignement devient vraiment indispensable. Nous arrivons à avoir du renseignement, on met les populations à contribution, nous utilisons plusieurs sources. Mais est-ce que les populations collaborent vraiment ? Je dirais que ça dépend des milieux. Et ça dépend aussi des menaces qu'ils reçoivent de ces groupes armés terroristes.
Oui, la population est prise en tenaille, avec d'un côté les djihadistes, de l'autre une pression, on peut dire aussi de l'armée, pour essayer d'obtenir des renseignements. Mais mon colonel, et je vais donner la parole évidemment dans un instant à Janine Ella Abattan et Nadia Nata, pour que la population coopère, il faut qu'elle ait confiance en son armée. Que faites-vous justement pour instaurer ce climat de confiance ?
Je dirais que ce sont des actions pas exclusivement militaires, étant donné que la lutte contre le terrorisme est globale. Donc il y a beaucoup d'actions pour déjà améliorer les conditions de vie de ces populations, pour les sensibiliser sur l'attitude qu'elles devaient avoir par rapport à ces groupes armés terroristes qui leur servent des narratifs qui ne sont pas vraiment le cœur de leur pensée.
Donc il y a un volet social qui vient en complément du volet militaire pour instaurer justement cette confiance.
Il y a un volet social, il y a un volet développement, il y a un volet gouvernance et beaucoup d'autres aspects.
Nadia Nata, vous confirmez ?
Oui, tout à fait. Vous savez, le renseignement humain, c'est le meilleur renseignement qui soit, mais en même temps, il ne peut se faire s'il n'y a pas confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Elle ne s'obtient pas du jour au lendemain. Comme on l'a dit, l'opération Mirador est récente. La présence des forces de défense, notamment militaires, est récente dans la région. D'habitude, c'est la police de proximité ou bien la gendarmerie auparavant. Donc, du jour au lendemain, des militaires qui ne sont pas connus, tout ça, c'est difficile. Et aussi, il ne faut pas oublier que de la même façon que les militaires ont ces relations de civilo-militaires et tentent de construire cette relation avec les populations, les djihadistes, de leur côté aussi, c'est des zones assez vulnérables, qui sont assez isolées de la capitale, où il n'y a pas forcément les services de base ou les services qu'il faut. Donc eux aussi essaient de se substituer aux autorités en donnant aux populations des assistances diverses. Et ça aussi, il faut prendre ça en compte, bien sûr, dans l'analyse. C'est la protection essentiellement. Moi, mon point ici, c'est la protection des personnes qui fournissent ces renseignements-là. Parce que tout le monde surveille tout le monde. Il y a des gens qui sont là pour surveiller aussi ce qu'on perçoit comme étant en train de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Et dès lors qu'il y a des mesures de représailles, c'est d'assurer la sécurité sur le long terme des personnes qui sont en mesure de fournir les renseignements.
Allez, on repasse au standard à Paris avec un dernier auditeur avant la dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Mokhtar.
Bonjour Gomez, bonjour à tous les auditeurs.
Et merci de suivre RFI à Niamey, au Niger, sur les réseaux sociaux. Qu'avez-vous envie de nous dire, Mokhtar, vous qui êtes au Niger ?
Écoutez, moi je pense que les pays du Golfe de Guinée, qui sont aujourd'hui les nouvelles cibles de ces organisations terroristes, doivent tirer les leçons de la gestion de cette crise au niveau des pays du Sahel. Il y a des choses qui ont évidemment marché au Sahel et il y a aussi des choses qui n'ont pas marché.
Et tirer les leçons, Mokhtar, tirer les leçons, ça veut dire quoi ? Ça veut dire regarder, nous au Niger par exemple, comme nos voisins maliens et burkinabés, nous avons demandé à la force Barkhane, donc aux soldats français, de se retirer car finalement leur mission ne portait pas leurs fruits.
Et chez nous au Sahel, après une décennie de coopération, le bilan a été jugé très catastrophique. L'opération Barkhane, qui était censée créer une digue contre l'avancée de ces groupes terroristes, a lamentablement échoué, ce qui a favorisé la progression de ces groupes terroristes vers les pays du Golfe de Guinée. Aujourd'hui, les pays du Sahel ont pris leur destin en main et ils ont une solution qui est posée sur la table, une offre qui est prenable même pour les pays du Golfe. Il s'agit de la souveraineté en matière de la gestion de sécurité. Il faut que ces États du Golfe de Guinée comprennent qu'ils ont tout intérêt à rejoindre cette alliance des États du Sahel qui a décidé de prendre elle-même son destin en matière sécuritaire.
Et j'entends bien, vous parlez de souveraineté sécuritaire, mais en même temps, ces trois pays, Burkina, Niger et Mali, se sont tournés vers d'autres partenaires. On aura l'occasion justement de faire réagir nos invités qui souhaitaient vivement prendre la parole, mais là on est obligé de rendre l'antenne à Paris pour le journal Afrique et on revient, c'est promis, dans 10 minutes.